Radio Kapi.
Les informations, Jocelyne Moussaoupondé. Plus de 40 000 réfugiés sud-soudanais se sont installés depuis avril dans le territoire d'Arou en Ituri sans encadrement des services publics. Le député Amoulé Arakayo Kizito alerte sur les risques des tensions et appelle à une implication accrue du gouvernement. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre ont débuté ce mardi. Au Nord Kivu, la fondation Biester appelle à une mobilisation générale pour protéger les femmes et les filles et invite les victimes à briser le silence. Une dizaine de journalistes d'Isangi et de Kisangani suivent au chef-lieu de la Tchopo une formation sur la gestion des catastrophes naturelles organisée par Start Network et le Hub DRC. Pour en parler, nous recevons Aimé Kikalagé, expert en communication de cette organisation. Bonsoir à tous. Plus de 40 000 réfugiés en provenance du Soudan du Sud se sont établis dans le territoire d'Arou, dans la province de l'Ituri depuis le mois d'avril dernier, sans aucun encadrement de la part de services publics, indique le député national Amoulé Arakayo Kizito. Cet élu d'Arou redoute que cette présence massive de personnes en provenance d'un pays en guerre ne puisse créer de tensions avec les communautés locales, tout en reconnaissant les sacrifices consentis par la Commission nationale pour les réfugiés et le Haut-Commissaire aux réfugiés dans la région. De cette situation, le député Amoulé estime que le gouvernement central devrait s'impliquer de manière active et efficace afin d'apporter des réponses appropriées à ce problème. On écoute Amoulé Arakayo Kizito qui répondait au micro de Guy Maté.
Nous avions constaté l'arrivée massive des réfugiés sud-soudanais au mois d'avril. À ce moment-là, il comptait aux environs de 15 000 réfugiés. Au même mois d'avril, j'avais fait une motion d'information à l'Assemblée nationale pour alerter les autorités. Au mois de mai, ils étaient déjà aux environs de 23 000. Aujourd'hui, nous comptons plus de 30 à 40 000 réfugiés. Si vous voyez une masse pareille dans un millier quelconque, vous savez ce que ça doit faire. D'abord, ça va créer une tension interne avec la communauté parce qu'ils vont se disputer les terrains. Ils vont se disputer l'endroit, ils vont se disputer beaucoup de choses là. D'abord, si vous voyez ce que les gens en font dans les milliers, c'est juste les petits champs. Maintenant, cette présence-là va nécessiter qu'il y ait maintenant une pression sur ces mêmes biens-là. Ça va vraiment désorganiser la situation et ça va créer une tension interne que nous voulons éviter. Moi, je souhaite à ce que le gouvernement s'implique dans cette situation. Naturellement, aujourd'hui, avec la situation que nous vivons à Arou, il faut que Arou soit décrété une zone humanitaire.
Début ce mardi 25 novembre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette initiative internationale qui se tient chaque année jusqu'au 10 décembre vise à sensibiliser et mobiliser les communautés contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. À cette occasion, la présidente de la fondation Biester, engagée dans l'autonomisation économique des femmes, l'accompagnement psychosocial et la promotion de leurs droits au Nord Kivu, appelle à une implication réelle de tous pour protéger les femmes et les jeunes filles dans l'est du pays. Mignonne Zaina Chaupanga insiste également sur la nécessité pour les victimes de briser le silence. Elle est jointe au téléphone par Martial Papimoukeba.
Dans l'est de notre pays, depuis 3 décennies, trop de femmes et de jeunes filles subissent toutes sortes de violences, que ce soit dans les zones rurales, urbaines ou même dans les sites des déplacés. Trop de vies sont marquées par la peur, la douleur et l'injustice. Ces souffrances ne peuvent plus rester dans l'ombre. À l'occasion du 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, j'adresse un appel urgent à toutes les communautés, à tous les acteurs de la société civile et aux autorités. Engageons-nous pleinement, notre implication est vitale pour protéger les femmes et les filles et bâtir des communautés sûres, justes et solidaires. Les victimes doivent dénoncer afin de recevoir soutien, protection et dignité. J'adresse également un appel pressant à la communauté internationale, soutenez toutes les actions qui viennent en aide aux victimes pour construire un avenir où chaque femme et chaque fille vit libre, respectée et en sécurité.
Les femmes du Kasaï central ont célébré cette journée à leur manière. Les organisations de la société civile de défense de droits des femmes et de lutte contre les violences basées sur les genres du Kasaï central ont marché ce mardi à Kananga. Vous avez compris, c'était justement à l'occasion du lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. La marche est partie du rond-point Notre-Dame jusqu'au bâtiment administratif où un mémorandum a été lu et remis au gouverneur. Des détails avec André Katende Ngala Moulumé.
La marche vise à dénoncer les violences dont sont victimes les femmes et filles du Kasaï central. Les manifestants tiennent des banderoles, les calicots, sur lesquels on peut lire divers messages de lutte contre les violences basées sur le genre. Arrivés au gouvernorat, point de chute, ils ont lu un mémorandum. Dans ces mémorandums, les structures de défense des droits des femmes parlent de la recrudescence des cas de violences basées sur le genre depuis 2021.
La situation des violences basées sur le genre est restée très préoccupante en raison de plusieurs cas notifiés. 20 791 en 2021, 7 099 en 2022, 5 139 en 2023. 4841 en 2024 et 3130 au deuxième trimestre de 2025.
Face à cette situation, les manifestants ont sollicité l'accompagnement du chef de l'exécutif provincial. Message bien accueilli par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou qui leur a promis son soutien. Après la marche, les structures de défense des droits de femmes se sont dirigées vers la salle de la maison du barreau du Kasaï central où la ministre provinciale du genre a lancé officiellement les activités des 16 jours d'activisme. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Utilisez vos téléphones pour unir et non pour diviser. Tel est l'appel lancé aux jeunes afin de mettre fin à la violence numérique contre les femmes et les filles. Appel lancé par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Omba, lors d'un échange avec la presse à Kinshasa hier lundi. Cela s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, lancée donc ce mardi par le ministère du Genre, Famille et Enfants et par l'Agence des Nations Unies pour la Santé Sexuelle et Reproductive. Les détails dans ce reportage de Naomi Moutokié et Josué Kefebé.
Cette campagne annuelle de lutte contre les violences basées sur le genre se tiendra du 25 novembre au 10 décembre. Le thème de cette année est « Mettre fin à la violence numérique contre les femmes et les filles ». À cette occasion, le ministre du Genre, Micheline Omba, a lancé un appel à la conscience de la jeunesse sur l'usage de la technologie.
Le numérique, jadis symbole de progrès et de liberté, devient de plus en plus une arme d'harcèlement en ligne. La cyberintimidation...
De son côté, Mireille Ikoli, une des responsables à l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, a rappelé que son organisation milite auprès des autorités pour une application effective de loi afin que les auteurs de violences soient sanctionnés.
On a même des propositions encore des lois en vue, en cours au niveau du Parlement. Nous avons également notre code du numérique qui aborde d'une certaine manière les questions de violence. Tout ce que nous faisons, c'est de faire connaître d'abord ces lois au public. Ils sont censés appliquer ces lois.
Selon les données de l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, plus de 460 000 cas de toutes formes de violence ont été enregistrés entre 2021 et 2024 en RDC.
Ouverture ce mardi à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa des travaux de la 11e édition du Forum international des affaires Makutano, placé sous le thème « Les contrats du Congo, l'heure du choix ». Ces assises réunissent durant deux jours des personnalités majeures de la vie publique et économique de la RDC. Au menu, quatre grands talks stratégiques marquent les échanges, gouvernance, mines, énergie et transport. Des décideurs, experts, investisseurs et acteurs du changement analyse et débatte et puis oriente les choix structurants dès demain. Comment bâtir une économie connectée, compétitive et souveraine? C'est l'un des enjeux majeurs de la 11e édition du Forum international des affaires Makutano, initié par Madame Nicole Soulou. Dans son mot de circonstance, Judith Suminwa, la première ministre, a salué l'initiative de Makutano, qu'elle estime être noble et indispensable, avant de mettre un accent particulier sur la diversification de l'économie en RDC et la transformation locale, notamment dans le secteur minier. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Les mines pour nous doivent être un accélérateur et pour nous il est important d'aller vraiment vers la diversification de cette économie et pour ça je l'ai dit, nous devons aller vers une transformation locale, ajouter une valeur, vraiment travailler sur une valeur ajoutée sur nos minerais. C'est un processus. On ne va pas demander à toutes les entreprises minières aujourd'hui d'arrêter d'exporter du jour au lendemain pour aller à la transformation, mais nous insistons, mettons-nous d'accord sur un processus qui va nous permettre d'ajouter de la valeur ajoutée à ces minerais et que demain, notamment dans le cadre de la transition énergétique, pourquoi pas aller effectivement vers cette production, c'est un exemple de batterie, aller effectivement vers des produits semi-finis qui vont rajouter une valeur chez nous et qui vont nous permettre de créer plus d'emplois.
L'actualité, c'est aussi ce grave accident de circulation qui s'est produit hier lundi sur la route de Matadi, près de l'arrêt Gramalik, dans la commune de Ngaliema. Selon des témoins, au moins une dizaine de personnes auraient perdu la vie, dont trois écoliers. Plusieurs blessés sont également signalés. Toujours d'après les témoignages, un camion de marque Tata aurait perdu son système de freinage avant de percuter des usagers. Constatant la défaillance, le conducteur aurait tenté d'alerter les personnes sur son passage. Un témoin rencontré sur le lieu de l'accident raconte la scène au micro de la Kinzao.
Ces véhicules ben arrivaient à vive allure, alors que les freins avaient lâché. Il y avait un autre camion devant. Emporté par sa vitesse, le chauffeur s'est vu obligé d'aller heurter les camions qui se trouvaient devant lui, pour chercher à s'arrêter. Parce que n'eût été cette stratégie, on allait pleurer beaucoup de morts. C'est ainsi que les motocyclistes qui se trouvaient sur cette route, mais aussi d'autres usagers, au total 11 personnes, dont 3 écoliers, ont perdu la vie. Une fille s'est retrouvée avec une jambe amputée. Elle a été acheminée à l'hôpital. Cet axe routier est souvent le théâtre d'accidents à répétition. La cause de cet accident est liée à la défaillance du système de freinage du véhicule. Mais assez souvent, même les sociétés de l'État doivent veiller à l'entretien de leurs véhicules. Cela ne doit pas concerner uniquement nous les taximens.
Dans la province de la Mongala, une pluie torrentielle survenue lundi dernier a causé d'importants dégâts matériels à Bongandanga. Selon la coordination de la société civile et des forces vives, plusieurs bâtiments administratifs ont été endommagés par une violente tempête, notamment ceux de la CENI et de l'hôpital de référence. L'ampleur des dommages empêche pour l'instant le personnel d'accéder à leur lieu de travail. De nombreuses habitations ont également été touchées dans la cité. Barthélémy Lotanda, coordonnateur de la société civile et des forces vives de Bongandanga, lance un appel à l'aide en faveur des victimes. Il est joint au téléphone par Askinzik Biatayoro.
Surtout dans les centres-villes, cette pluie a causé beaucoup de dégâts matériels. Notamment, le bureau de la sous-division provinciale de Bongandanga 1 emporté, le bureau du colonel de Bongandanga emporté, la maternité de l'hôpital général de Bongandanga emporté. D'ailleurs, les mamans qui étaient là, qui avaient fait une naissance là-bas, ont fui la nuit. Et elles ont emporté quelques matelas de l'hôpital parce qu'il y a eu des décombres qui commençaient à tomber par-dessus les enfants qui étaient nés. L'entrepôt de la CENI emporté, le matériel de la CENI reste à ciel ouvert maintenant. On a diligenté les policiers autour de ces bâtiments-là. Le bureau de l'inspection pour le primaire de Bongandanga qui est emporté également. Vraiment, il y a beaucoup de dégâts. À la cité, il y a beaucoup de maisons qui ont été emportées. Nous en appelons les autorités qui nous écoutent de pouvoir venir en aide à ces bureaux-là qui sont emportés. Les travailleurs ne viennent plus parce qu'il n'y a pas place de se mettre.
Dans la province du Tanganyika, plus de 600 cas suspects de choléra, dont une vingtaine de décès, sont enregistrés à la 47e semaine dans la zone de santé de Moba. Dans une déclaration ce mardi, le médecin chef de zone souligne que les aires de santé les plus touchées sont situées à côté du lac Tanganyika et la population consomme l'eau de ce lac. Le médecin indique que la rupture du stock des intrants rend difficile la prise en charge de malades. Les propos du docteur Barwine Momba, médecin-chef des zones de santé de Moba, sont recueillis par Paul Mounanga.
La zone de santé a déjà notifié 640 cas suspects de choléra, dont 20 décès. Maintenant, pour la semaine 47, cette semaine qui vient de s'écouler, nous venons d'enregistrer environ 94 cas suspects de choléra, 0 décès. Il y a les aires de santé qui sont en train de notifier plus de cas. La majorité d'aires de santé qui ont notifié ces cas sont les aires de santé de l'Axelac. c'est-à-dire le vibrion est déjà éparpillé dans plusieurs aires de santé. Sinon, on est en train de se démener de gauche à droite pour mettre fin vraiment à cette situation. Et la prise en charge est en train de se faire dans la zone de santé. Gérer les cas de choléra sans chlore, je pense que c'est une situation vraiment qui semble être très difficile, puisque la zone de santé est en rupture de chlore. Et nous sommes aussi presque dans la rupture des intrants de la prise en charge. Les RL, au BCZ, nous avons une quantité très insignifiante.
Actualité internationale.
Le Mali et l'entreprise canadienne Barrick Gold mettent fin à leur conflit sur l'or. Les autorités de transition ont du pouvoir au Mali et la compagnie aurifère canadienne Barrick Gold ont annoncé hier lundi la fin de leurs différends de plusieurs mois sur l'un des plus importants gisements aurifères au monde dont Bamako avait obtenu la mise sous administration provisoire en juin. Après 2 ans de tensions, c'est la fin d'un feuilleton à rebondissements.
L'invité.
Une dizaine de journalistes du territoire d'Isangi et de Kisangani suivent une formation sur la gestion de catastrophes naturelles et les risques y afférents. Cette formation débutée hier lundi va se dérouler pendant 3 jours à Kisangani. Elle est organisée par l'ONG Start Network et le hub de la RDC. Pour en parler, nous recevons Aimé Kikalagé, expert en communication de cette organisation. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Et Meki Kalagé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous organisez une formation sur le journalisme des crises au bénéfice de quelques médias d'Isangi et de Kisangani. Qu'est-ce qui justifie cet atelier?
Merci beaucoup pour la question. Comme vous le savez, la ville de Kisangani, les territoires d'Isangi sont sérieusement frappés par les inondations fluviales. Des inondations ont des conséquences, que ce soit sur les plans humains, que ce soit sur les plans autres que humains. Alors aujourd'hui, nous avons pensé être avec les journalistes en vue d'organiser cette session de formation dans le but de renforcer leurs capacités dans le traitement des questions liées à la réduction des risques de catastrophes. C'est en vue des de capacités davantage pour que les journalistes arrivent à informer de manière responsable les communautés sur ces genres de questions qui nous endettent chaque jour et sauver des vies humaines.
Quels sont les objectifs poursuivis ou la finalité de cette...
Bon, oui, c'est-à-dire que les journalistes vont améliorer leurs compétences d'abord par rapport à tout ce qu'il y a comme notion de réduction des risques et des catastrophes. Au-delà de ça, c'est la prise de conscience collective qu'il y a des problèmes et que les journalistes doivent produire des contenus journalistiques en vue d'informer, en vue de sensibiliser les communautés pour un changement social des comportements. Parce qu'aujourd'hui, la lutte contre les inondations à Isangi comme à Kisangani devra aussi passer par les changements sociaux des comportements.
Que voulez-vous que les gens fassent? Qu'ils affichent quel genre de comportement?
Il faut que les gens arrivent à adopter des bonnes pratiques qui promeuvent la protection des populations en cas de catastrophe naturelle. Et cela, ces productions doivent se faire avant, pendant et après les inondations. Et aussi, au niveau des étatiques, je pense que les médias qui sont ici doivent aider aussi à sensibiliser d'une manière ou d'une autre en vue de prendre des bonnes politiques pour l'urbanisation de nos villes, pour aider aussi à sauver les populations.
Pour cet atelier, il n'est pas prévu des thèmes comme tels, mais qu'est-ce qui est au centre de cette formation journalistique alors?
Il n'y a pas un thème principal, mais tout ce qu'il y a au centre, c'est la réduction des risques et des catastrophes, mais aussi la responsabilité des journalistes dans toutes ces questions-là.
Avez-vous constaté quelques insuffisances dans le travail des journalistes? Si oui, que leur recommandez-vous?
Bon, par rapport au travail du journaliste, on a constaté qu'il y a aussi un manque d'informations à l'égard de nos communautés sur des questions de catastrophes. Les journalistes ou soit les médias qui sont représentés doivent aussi avoir des grilles de programmes qui tiennent compte ou soit qui intègrent des questions liées aux catastrophes naturelles. Au-delà de ces grilles-là, il faudra que les journalistes mettent en pratique tout ce qu'il y a comme acquis de cette formation, c'est-à-dire produire régulièrement des émissions sur les catastrophes, continuer à sensibiliser les membres des communautés sur des bonnes pratiques par rapport aux risques des catastrophes, mais aussi les journalistes doivent faire des bons reportages et lutter surtout contre les fausses informations qui circulent autour des inondations que nous subissons à Isangi comme dans la ville de Kisangani.
Et parmi les défis, il y a aussi un problème de matériel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, les défis liés au matériel, les défis logistiques, ils sont là. Nous sommes conscients qu'ils sont là. Mais au niveau du programme, on ne sait pas promettre maintenant que non, les programmes disposent des moyens maintenant pour appuyer matériellement, soit financièrement, les médias, parce qu'ils ont évoqué aussi les problèmes liés aux finances. Mais nous savons que le journaliste, peu importe les problèmes, c'est ça aussi la capacité de résilience. Nous devons toujours informer, peu importe les problèmes que nous avons. C'est de voir avec les moyens, de voir qu'est-ce que les uns et les autres peuvent faire pour que quand même la population arrive à avoir de bonnes informations et se mettre à l'abri des inondations qui sont en face d'elle.
Vous avez prévu de rencontrer aussi les représentants des communautés locales. Quel est le message que vous voulez leur transmettre?
Oui, nous serons avec les membres des communautés. C'est parce qu'il y a les messages de sensibilisation qui ont été conçus par les organisations membres du HAB RDC. Alors, parce que ces messages sont destinés à la communauté, les représentants des communautés pourront participer au processus de validation de ces messages et de ces outils avant que les messages soient diffusés. C'est-à-dire, nous attendons de ces représentants des communautés leur participation active à la validation de ce message. S'il y aura par exemple des recommandations qui seront formulées ou soit quelque chose à amender dans le message qui ont été conçus, je pense qu'ensemble on pourra voir comment valider ces messages et les mettre à la portée de la consommation publique.
Aimé Kikalage, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est par ici que prend fin ce journal qui a été coordonné par Livine Mwinga et Polly Mouzalia et mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.